Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Dans un monde inquiet, sans beaucoup de repères, les penseurs antiques peuvent être d'un grand secours. Platon, Socrate, Épicure, Marc Aurèle posent des questions éternelles ou qui reviennent sous un jour nouveau. Nous verrons aujourd'hui comment des penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque peuvent nous aider à mieux vivre, à affronter la mort, la frustration, la brièveté de l'existence. Les stoïciens peuvent nous prêter main forte pour renouer avec la paix intérieure à la manière de certaines sagesse orientale comme le bouddhisme. Nous nous demanderons également si le stoïcisme est une philosophie de la résignation et de la passivité. Nos invités, les professeurs de philosophie Roger Paul-Droit, Thibaut de Saint-Maurice et Marie Robert, mes complices du jour, Éric Libiot et Guillemette Audicino, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à tous nos invités, Roger Paul-Droit, professeur de philosophie, chercheur, chroniqueur au Monde, parmi vos nombreux ouvrages à succès sont une expérience de philosophie quotidienne, ou encore vivre aujourd'hui avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres. Les philosophes peuvent vraiment nous aider à vivre, à affronter certains pans de notre existence. Certains philosophes, que je ne citerai pas, se bouchent le nez à cette idée.
Ça veut dire que sans doute ils se boucheraient le nez à toute la philosophie antique, parce que c'est Pierre Hadot, qui est un grand professeur au Collège de France, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait ce retour en montrant que finalement tous les philosophes de l'Antiquité, y compris ceux que nous lisons comme des théoriciens, ça veut dire y compris Platon, y compris Aristote, n'écrivent pas seulement pour faire des livres, pour faire des théories, mais pour modifier leur rapport au monde, à eux-mêmes, aux autres, aux accidents de la vie. Et donc il y a, et chez les stoïciens c'est encore plus net, une manière d'incarner les idées. Il ne s'agit pas, finalement, des principes. Les principes, ils sont assez simples. Ils sont généralement partagés. Il s'agit de les faire vivre, ces principes. Chaque jour, heure par heure, dans les gestes quotidiens, dans les pensées, et se demander, finalement, si ce que l'on fait est conforme à ce qu'on pense. Et quand le grand empereur Marc Aurèle écrit ce qu'on appelle, nous, ses pensées, penser pour soi-même. Pierre Hadot a bien montré que c'est pas pour écrire un livre. Il fait pas un bouquin. Il est chaque soir dans sa tente au bord du Danube. Il y a les armées des Daces que les combattent les Romains. Il est chef d'armée. Mais il est aussi tout simplement philosophe et il se demande si il s'est conduit en humain, en bon stoïcien, il fait un examen de conscience et son exercice d'écriture, c'est finalement un retour philosophique sur ses propres actes pour agir autrement.
Marie-Robert, Thibaut de Saint-Maurice, vous qui êtes professeur de philosophie au lycée.
Oui, en fait, c'est intéressant avec les élèves de travailler cette dimension très pratique. C'est-à-dire, en fait, de revenir avec Marc Aurèle ou avec Épictète. Épictète écrit, en fait, le premier manuel de l'histoire, puisque il y a Épictète, un philosophe stoïcien aussi, qui écrit un texte qui s'appelle Manuel, parce qu'il devait tenir dans la main et que ça constitue donc vraiment une sorte de premier manuel scolaire presque. Et donc, redécouvrir cette dimension très pratique. Et en fait, les élèves, ils sont assez sensibles parce qu'ils ont une approche de la philosophie souvent qui est un peu austère, qui est une discipline très théorique, très abstraite. Et cette dimension d'examen de conscience, il y a tellement de pensées chez Marc Aurèle, par exemple, où il explique voilà qu'il faut revenir à ses représentations, maîtriser son imagination, trier ses désirs, etc. Et donc, ça permet d'entrer, en fait, dans un rapport à la philosophie qui n'est pas celui auquel ils s'attendent et qui donc les surprend, mais dans le bon sens du terme.
Marie-Robert.
Les surprend et d'autant plus sort aussi, correspond beaucoup plus aux fantasmes qu'ils peuvent avoir de la philosophie. C'est-à-dire qu'on quitte l'espace de la dissertation, de la méthodologie, d'une espèce de collection d'histoire de la philo qui forcément en laisse plein à distance pour revenir dans « je peux ramener des outils chez moi ». Et justement, on a aussi, je pense que c'est aussi votre cas, beaucoup d'élèves demandeurs d'outils, de techniques, presque de développement personnel. Et là, soudain, il y a une réconciliation. Ah oui, la philo peut m'aider dans ce quotidien. Donc c'est là où vraiment la synthèse avec Pierre Hadot et l'idée que c'est pas une théorie abstraite, mais un art de vivre, est tout à fait pertinente. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant même de commencer l'année avec des pensées qui sont vraiment des sagesses antiques, que ce soit les épicuriens ou les stoïciens.
Alors on s'intéresse aux penseurs stoïciens, mais ça fait référence à quoi le mot stoïcien ? D'où vient ce nom, Roger Paul-Droit ?
Eh bien, ça, stoa, c'est un portique. Et le premier de ceux qui seront ensuite nommés stoïciens, qui était Zénon de Citium. C'est un type qui vient de... C'est un phénicien. Il a fait naufrage. Il a perdu toute sa cargaison de pourpre. Et il se débarque à Athènes ruiné. Et il vient et il se met à faire de la philo pour essayer de se peut-être de se reconstituer. Et ensuite, alors il a été élève des cyniques, tout ça, mais peu importe. Ensuite, il enseigne sur l'Agora à Athènes, à un endroit qu'on appelle le portique peint, Stoa Poikile, avec des peintures, parce que nous avons l'idée que le Parthénon et le reste, c'est du marbre blanc, c'est ça notre fantasme de la Grèce antique. C'est pas vrai, c'était Disneyland, c'est-à-dire c'était très coloré, bigarré, avec des couleurs très vives, et ce portique peint, c'est là qu'il enseigne, et du coup, on a appelé ces gens-là, ces penseurs, ces philosophes, les gens du portique, Stoa, donc les stoïciens.
Et on utilise le mot stoïque dans la vie de tous les jours. Le Robert nous dit que stoïque, c'est faire preuve de stoïcisme, synonyme courageux, impassible. Il y a un contresens ou pas quand on utilise le mot stoïque dans notre vie de tous les jours ?
C'est un contresens partiel, c'est-à-dire que ça ne recouvre pas la totalité du stoïcisme, mais dans le fond, c'est pas faux. Dans Épictète, dans le manuel, il y a une anecdote à propos d'Épictète où quelqu'un le torture ou veut le battre. Il dit « Attention, tu vas me casser la jambe ». Et la phrase suivante, c'est « Je te l'avais bien dit, tu m'as cassé la jambe ». Et voilà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui est une recherche de l'absence de trouble, l'apathie, c'est ça un des maîtres mots du stoïcisme, mais ça signifie finalement la sérénité intérieure, donc l'impassibilité. Et effectivement, il y a une résistance à la douleur, comme une résistance d'ailleurs aussi à la joie. Hein. C'est pas des marrants, forcément, mais c'est rester en quelque sorte avec un thermostat permanent.
Quels sont les grands noms du stoïcisme que l'on enseigne au lycée, en classe de philosophie ? Épictète, évidemment, Sénèque, Marc Aurèle, Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui. Alors, plutôt, en fait, effectivement, les auteurs les plus tardifs, parce que le stoïcisme, ça court, en fait, sur plusieurs siècles.
Donc le stoïcisme romain.
Voilà, plutôt le stoïcisme, parce que les textes sont plus facilement accessibles. Les premiers textes du stoïcisme donc grec sont plus difficilement accessibles. En fait, on les a surtout à travers des recensions ou des commentaires d'autres auteurs. Et donc, c'est pas toujours facilement manipulable, etc. Bon, en tout cas, le plus accessible aujourd'hui, oui, ce sont les textes de Marc Aurèle, de Sénèque ou d'Épictète. Quelques passages aussi chez Cicéron. Il y a du stoïcisme chez Cicéron dans le Traité des Devoirs, par exemple.
Alors, on y reviendra largement au cours de cette émission, mais quels sont les grands principes du stoïcisme pour conduire sa vie, Marie-Robert ? On va y revenir, mais de façon un peu schématique.
Bien sûr, de façon un peu schématique. Non, ce qu'on retient beaucoup, et en tout cas, moi, pour ma part, c'est ma porte d'entrée dans l'enseignement, c'est cette idée que, vraiment, il y a deux catégories de choses. C'est évidemment ce qui dépend de nous, comme les jugements, les impulsions, les désirs, les aversions, donc nos actes, et ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire le corps, la possession, la météo, la richesse, la réussite, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans nos actes. Et en fait, ce qui est formidable justement avec cette pensée, et Épictète le dit tel quel, c'est que nos actes, nous en sommes libres, tout ce qui n'est pas nos actes nous rend faibles, serviles, étrangers. Et donc si on confond, c'est là où il y a du tourment.
Roger Paul-Droit,
c'est passionnant.
Roger Paul-Droit, comment expliquez-vous le succès persistant de certains ouvrages stoïciens encore aujourd'hui ? Je cite 5 grands succès en librairie, De la brièveté de la vie, De la vie heureuse et Les lettres à Lucilius de Sénèque, Les pensées à moi-même de Marc Aurèle ou Le manuel d'Épictète, qui ne sont pas simplement lus par les élèves de terminale, hein, mais qui sont encore des grands succès en librairie.
Une partie de la réponse, elle est dans ce que vous venez de dire vous-même, c'est-à-dire De la brièveté de la vie, la tranquillité du sage. C'est-à-dire, c'est des questions qui nous concernent, forcément. Et lorsque on voit... Alors, il faut peut-être faire un très bref et rapide retour arrière. Il y a effectivement un stoïcisme ancien grec, chez les Grecs, qui est plus théorique, et que, à part les chercheurs...
Comme vous.
On oublie, c'est-à-dire, Zénon de Citium, personne ne sait qui c'est, Cléante, on ne lit pas, Chrysippe, dont on a beaucoup de textes, qui est le théoricien un peu dur. Et il y a une théorie du langage, très importante, et de la logique, une théorie du monde et de la physique, et comme troisième et dernière partie, à l'intérieur de comment nous parlons, comment nous pensons, dans quel monde nous vivons,
la manière d'agir. Et cette manière d'agir, elle a été développée beaucoup plus par les Romains, c'est-à-dire Sénèque, dont il ne faut pas oublier qu'il était le précepteur de Néron. Alors ça, ça a été vraiment l'échec de celui-là. Parce que, et finalement, d'une certaine manière, Sénèque, ayant eu pour élève l'empereur Néron, ayant tout à fait échoué, a aussi le désir, finalement, de fabriquer, si j'ose dire, des élèves imaginaires. Parce que les lettres à Lucilius, qui est vraiment un chef-d'œuvre, de direction de conscience, d'une certaine manière, il forme. On oublie que Lucilius n'a jamais existé. On a cru un temps que c'était un vrai personnage. Il invente un correspondant auquel il s'adresse, auquel il répond, qu'il suit. Et le succès de tout ça, c'est tout simplement le fait que ça nous parle encore, parce que nous continuons à avoir peur de mourir, à avoir peur d'être malade, à avoir des deuils, à en chier, si je puis dire. Voilà. Et il nous dit, il faut prendre de la distance vis-à-vis de ce merdier.
J'ai lu cette pensée de Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui s'apprête à vivre une journée difficile. Je le cite, chaque matin, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux. Un égoïste, c'est pas pour vous, Éric Libiot, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est pas mal de commencer la journée comme ça.
Il n'est pas tout ça en même temps.
Thibaut de Saint-Maurice. Hein.
Oui, en fait, et alors on pourrait dire que c'est une sorte de version un peu de pensée positive où on se dit on va se préparer à sa journée, mais en réalité c'est beaucoup plus fin que ça. Parce que se dire que l'on va rencontrer un ingrat, un égoïste, etc., en fait, ce qui est important, c'est le se dire, c'est-à-dire en fait de travailler sur ses attentes, ses représentations et ses projections. Et c'est là où ça ouvre en fait un champ de liberté intérieure incroyable, c'est que la sagesse et la puissance et la force et le courage stoïcien se jouent en fait dans ça, dans ce se dire, c'est-à-dire dans ce champ que l'on découvre finalement du travail sur soi, du rapport à ses représentations. Voilà. Bien sûr, dans le monde, il y a des ingrats, des égoïstes, etc. J'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus. Mais à l'intérieur du rapport à moi-même, là, j'ai un grand pouvoir.
Guillemette Audicino.
Mais se dire ces pulsions et les en prendre conscience, est-ce que c'est suffisant pour arriver à les maîtriser ?
Il va falloir...
Vous avez raison, c'est le problème des limites du jeu. Hein, parce que ce qu'ils ont inventé d'extraordinaire, effectivement, c'est ce qu'on appelle un usage rationnel des représentations. Les trucs que j'ai dans ma tête... Je peux les regarder pour prendre distance, pour les modifier. Ça modifie ma conduite, ça modifie mes affects. Jusqu'à quel point ?
Comment les stoïciens peuvent nous aider au quotidien ? C'est notre thème du jour avec Roger Paul-Droit, Thibaut de Saint-Maurice et Marie Robert. Claire Destacan, Théo Denmat et Antoine Vandeville m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Feel like crying.
Chris Isaak interpréter Baby Did a Bad Bad Thing.
On est, on vit.
Grand bien vous fasse.
On prépasse.
À l'IRBI.
C'est comme ça pour tout le monde.
Pas forcément.
Sur France Inter.
Comment des penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque peuvent nous aider dans notre vie quotidienne? Élément de réponse avec trois pédagogues hors pair, Roger Paul Droit, Marie Robert et Thibaut de Saint-Maurice.
Il existe une prière conçue pour donner de la force aux gens confrontés à une situation qu'ils refusent d'accepter. Cette prière puise tout son pouvoir dans sa profonde connaissance de la nature humaine.
Nous demandons au Seigneur de nous donner la sérénité, la force d'accepter ce que nous ne pouvons changer.
Parce que beaucoup d'entre nous ragent contre ce que la vie leur inflige.
Le courage de changer ce qui peut l'être.
Parce que nombreux sont les lâches qui n'osent pas se battre pour imposer ce qui est juste.
Et la sagesse pour savoir les différencier.
La prière des alcooliques anonymes dans la série américaine Desperate Housewives et qui semble inspirée de la sagesse stoïcienne. Alors l'une des grandes bases du stoïcisme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Dans ce célèbre manuel, Épictète énumère les choses qui ne dépendent pas de nous, le corps, la richesse, la réputation, le pouvoir. Il y a des données du réel sur lesquelles je ne peux rien faire. Quand il neige, je n'y peux rien. Inutile de se mettre la rate au courbouillon. Roger Paul Droit, hein?
Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est un peu curieux au départ quand on entend ça pour la première fois. Mon corps dépend pas de moi, mais alors ça veut dire que j'ai pas besoin de me maintenir en santé, de faire attention, d'être précautionneux. La fortune dépend pas de moi, mais alors ça veut dire que je fais rien pour réussir ou ces choses-là. Non, l'idée, c'est que nous devons et même nous pouvons faire de notre mieux, mais in fine. Tout ce que je peux faire pour me maintenir en bonne santé ne m'empêche pas d'être écrasé par un bus ou d'attraper n'importe quel virus que je n'aurais pas tenu à l'écart. Faire attention à, je ne sais pas, mon épargne, ma situation sociale, mes sous, des choses comme ça ne m'empêche pas d'être ruiné par une crise financière soudaine. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la seule chose qui est en notre pouvoir, c'est ça bien l'idée d'Épictète, c'est notre attitude intérieure. Si je fais attention à choisir le bon bateau, le bon itinéraire, le bon capitaine pour ce bateau, la bonne compagnie pour faire ça. Je peux être pris dans une tempête effroyable, ça c'est pas de ma faute. Et c'est la faute à personne. La seule chose qui est de ma responsabilité, c'est l'attitude que je vais avoir. Ou je panique ou non. Ou bien j'ai peur de la mort ou pas. Ou je traverse la maladie d'une certaine manière. C'est-à-dire, quoi qu'il nous arrive, malade ou pas, fortuné ou ruiné, en prison ou libre, la seule chose pour les stoïciens, et ça peut se discuter, mais c'est ça leur thèse, en tout cas pour Épictète, c'est que est en notre pouvoir ce qui se passe dans notre tête et ce que nous faisons à l'intérieur de nous, de ce qui nous arrive.
Marie Robert, je rappelle que vous êtes professeure dans un lycée Montessori dans les Yvelines. Il faut accepter l'existence de forces totalement indifférentes à nos désirs.
Mais je pense que ce qui est intéressant justement, c'est de faire la distinction. On dit souvent que c'est une doctrine de la passivité. En fait, pas tant que ça, c'est plus une doctrine de l'acceptation. Pas de la passivité, mais de l'acceptation de certains événements. Et effectivement, avec le seul contrôle que nous avons, c'est sur notre réaction. J'en parlais l'autre jour avec mes élèves, je citais l'anecdote juste avant d'arriver sur le plateau. Après avoir fait la leçon, ils m'ont dit « bah oui, bah finalement, moi j'ai un exemple, James Bond est stoïque ». Au moment où il se fait frapper nu violemment par Javier Bardem, il ne bouge pas, il reste flegmatique et il est stoïque. Et évidemment, un des élèves dit « bah non, parce que là, quand même, la douleur existe ». Et en fait, ça, c'est un cas de figure très intéressant et ils n'ont pas tort. Bien entendu, la douleur existe et le stoïcisme, il ne s'agit pas de le nier d'ailleurs, ni la douleur, ni la mort, ni la peur, ni quoi que ce soit, ni la souffrance, mais simplement d'accepter en fait notre représentation de cette souffrance et de ne pas considérer comme un mal, oui, il y a une souffrance, mais elle ne m'atteint pas. Donc, ce n'est pas une négation de la souffrance, ni de la passivité par rapport à elle, mais c'est comment moi, je peux contrôler ma réaction par rapport à cet événement qui arrive.
Et sur l'acceptation de forces totalement indifférentes à nos désirs?
Alors, totalement indifférente, non, puisque bien entendu, on a justement, et je pense que Roger Paul-Droit le rappelait, bien sûr, c'est on fait notre possible. Et c'est ça aussi qui est très beau dans le stoïcisme. C'est-à-dire, c'est on a une volonté intérieure qui nous guide, qui nous pousse. On donne très souvent hein, l'image de l'archer. Ce qui compte, c'est la puissance qu'il met dans la manière de tirer. C'est pas la cible qu'il atteint ou qu'il n'atteint pas. Donc, bien sûr que non. Au contraire, ça nous dégage pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. On est très ancré dans le stoïcisme. Notre attitude compte beaucoup plus que dans d'autres pensées philosophiques.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a dans la philosophie stoïcienne une conscience de l'ordre de la nature,
oui, bien sûr.
Totalement déterminée, qu'il faut connaître pour que ma raison en moi, pour que mes choix, mes représentations, etc. entre dans une sorte de résonance harmonieuse.
Bien sûr.
Donc, oui, il y a une dimension d'activité, de consentement, etc., mais qui passe par la reconnaissance d'un monde très, très ordonné, très, très structuré. Et au fond, il y a l'idée aussi... Et peut-être là, mais je suis pas spécialiste de ça, mais il y a des pistes avec une sagesse peut-être plus bouddhiste orientale. L'idée qu'il faut aussi consentir à la nature du monde et laisser aussi la nature en moi s'affirmer en harmonie avec cette nature-là du monde. C'est-à-dire vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent pour être heureux. Voilà, c'est donc bien respecter cet ordre naturel des causes.
Roger Paul-Droit, ce qui dépend de nous, ce que nous pouvons contrôler, c'est quoi? C'est notre volonté. Les stoïciens parlent de citadelle intérieure.
Oui, c'est l'idée finalement que, quels que soient encore une fois les hasards, les forces qui agissent dans le monde, les événements positifs ou négatifs, je peux... finalement, ne contrôler véritablement qu'une seule chose, c'est mon fort FOR intérieur, ou ma citadelle FORT interne, et avec l'idée que c'est ça que je contrôle. Mais je crois qu'il faut ajouter peut-être qu'il y a un mélange, enfin, ou une alternance extrêmement subtile entre indifférence et puis choix des choses préférables. C'est indifférent d'une certaine manière d'être malade ou bien portant pour les stoïciens parce que la seule chose qui compte, c'est mon attitude face à la santé ou à la maladie. Ok. Mais simplement, ils sont quand même pas complètement fous. Ils préfèrent être bien portants que malades. Ils préfèrent être au sec que sous la pluie. Ils préfèrent dormir avec un toit que que dehors. Et l'idée, c'est donc que finalement, tout, d'un certain point de vue... est indifférent, d'accord, sauf ma volonté, mais qu'il y a malgré tout des préférables. Et ça, c'est assez astucieux, parce que ça veut dire, par exemple, que je vais rechercher la santé, évidemment, je vais me protéger, je vais rechercher aussi du confort, mais je sais que c'est indifférent, donc je ne vais pas y être attaché, et si ça ne marche pas, je récupère en quelque sorte mon fort intérieur.
Guillemette Odissino.
Et pour ce qui est de cette autre maladie, la maladie d'amour, comment ils sont par rapport à cette maladie qui est souvent pénètre les forteresses intérieures?
Hélas, immunisé aussi, madame.
Immunisé aussi, monsieur, c'est bien dommage.
Beaucoup de monde et des Franciliens par choc contre eux, par choc, vous le voyez. Alors les Franciliens qui veulent rentrer chez eux, notamment en banlieue sud de Paris, écoutez-les, eh bien ils prennent leur mal en patience.
Ah, c'est les alliés de la vie, hein. On va pas s'énerver, hein. C'est comme ça. Faut juste être patient.
Vous prenez les choses bien.
Bah, il faut les prendre bien. Si tout le monde s'énerve, c'est même pas la peine. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Alors, si ça vient, bah, on fait avec.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On n'a pas le choix. On l'a choisi. Je pouvais prendre le RER, c'est de ma faute. Puis pour l'instant, tout se passe bien.
Extrait d'un reportage sur BFM TV cette semaine. Alors, dans ces bouchons monstrueux en début de semaine en Ile-de-France, ces automobilistes agissent, parlent de façon plutôt stoïcienne, Marie-Robert.
Effectivement, c'est vrai que la semaine nous force à être stoïciens, mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être qu'on y a des événements aussi contraignants. On est obligé d'adopter une posture qui est par définition stoïcienne, puisque on est forcé à l'acceptation. En plein milieu d'une route, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Donc, c'est souvent des événements assez extraordinaires qui nous conduisent à agir de cette façon-là.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et puis il y a l'idée, moi ce que j'aime bien là, de ce qu'on a entendu, au fond, c'est qu'il y a une forme de sagesse populaire, en fait. Voilà. Et que ça répond aussi un peu à la question du départ, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on continue de les lire et pourquoi ça continue de nous inspirer? Parce que dans ces moments de crise, hein, dans ces moments de catastrophe, ou dans ces moments où on est confronté comme ça, il y a une forme d'évidence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on enfonce des portes ouvertes et que c'est l'opinion générale, etc. Mais parce que, moi, je crois que ces moments de crise et de un peu de catastrophe, etc., constituent finalement des moments où la vérité surgit plus facilement. Voilà. Et on se débarrasse un peu du gras d'un ensemble d'opinions parfois, voilà, malheureuses. Et donc, même dans ces propos saisis au vol, on entend quelque chose d'une sagesse qui s'exprime dans un moment de catastrophe.
Roger Paul Droit.
Sénèque. Il faut se faire à sa condition sans plaindre le moins possible. C'est dans De la tranquillité de l'âme. Et ailleurs, dans une lettre à Lucilius, à 77, il parle des lamentations, il parle des deuils, des coups durs. Tout ce qui se passe comme malheur, les malheurs, pourquoi pas la neige aussi d'ailleurs, ne les alourdis pas de tes lamentations. C'est ce qu'on vient d'entendre. Tu rendras le mal léger en le considérant comme tel, tout ne dépend que de l'idée qu'on s'en fait. C'est toujours la même chose. Et je voulais revenir une seconde sur l'amour.
Ah, c'est
oui, parce que j'ai fait court.
Vous m'envoyez ravi.
C'est pas là. Il y a un point. Bien sûr, n'importe quel stoïcien peut éprouver non seulement du désir, mais de l'amour et tomber amoureux. Mais il va considérer tout cela, et c'est là où je trouve que ça foire, il va considérer tout cela comme quelque chose qui est pathologique. Dans pathologique, il y a pathos c'est l'émotion, c'est l'affect. L'idée que ça soit la raison qui doive tout guider, qui doive finalement tout contrôler, fait que tout ce qui est amour comme haine, désir positif comme répulsion, c'est finalement jugé perturbateur, c'est mis de côté, c'est etc. Donc, finalement, ils n'aiment pas trop être amoureux, ces gens-là.
Allez, il est temps de retrouver la vie des films de Guillemette Odissino.
Commode, es-tu prêt à faire ton devoir pour Rome ?
Oui, père, tu ne seras pas empereur. Quel homme plus âgé, plus sage prendra ma place ?
Rome va être une république à nouveau. Ma décision te déçoit.
Tu m'as écrit autrefois. Quelles sont les quatre vertus majeures ? Sagesse, justice, force morale et tempérance. J'en avais aucune. Tu te comportais comme si tu ne voulais pas de moi pour fils.
Oh, Commode, tu vas trop loin.
Et qu'est-ce qu'il y a en moi que tu es
dans... Oh, Commode, tes fautes de fils sont mes défaillances de père.
Guillemette Odissino, dans votre vie des films cette semaine, Gladiator de Ridley Scott, qui met en scène l'empereur Marc Aurèle, interprété par Richard Harris, et Commode, interprété par Joaquin Phoenix.
Oui, alors, interprété par Richard Harris, Marc Aurèle, puisque vous reconnaissez, c'est la voix de Dumbledore, en fait, dans Harry Potter. Bon, c'est sûr que là, du coup, ça floute un peu le sujet. Mais... Donc, effectivement, dans ce péplum de Ridley Scott, eh bien... Alors, c'est l'épopée de Maximus, qui est un général de l'armée romaine du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais dès que Maximus se présente, on l'entend. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Donc, Marc Aurèle, c'est vraiment le Marc Aurèle. Alors, c'est pas exactement en même temps le Marc Aurèle. D'abord, il meurt pas comme en vrai, mais c'est vraiment le Marc Aurèle qui a écrit donc les pensées pour lui-même. Alors, c'est drôle. Effectivement, il les écrivait que pour lui. C'était un journal intime de campagne. Mais déjà à l'époque, je sais pas qui avait décidé qu'il fallait publier les pensées de n'importe quel people. Donc ça a fini par devenir un livre public, alors que ce n'était effectivement que pour contrôler et maîtriser ses actes. Donc et ici impose des règles de vie. Alors, dans le film, Ridley Scott n'a pas vraiment le temps de buller et de nous présenter Marc Aurèle comme un stoïcien. Il nous le présente simplement comme un stoïque et vraiment, il supporte très très bien quand il se fait assassiner par son propre fils, donc Commode, qu'on a entendu, hein, qui n'a pas l'air très équilibré. Et c'est d'ailleurs là que commence la chute de Maximus. que Marc Aurèle l'aurait préféré comme rejeton. Et Commode, lui, qui n'est pas stoïcien pour deux sterces, n'est incapable de maîtriser ses pulsions. Il décide l'arrestation, l'exécution, le massacre de la famille de Maximus. Et Maximus, heureusement, s'échappe, devient esclave et revient comme gladiateur. Et ça, ce n'est que les 10 premières minutes du film. Hein. Tout le reste, c'est la vengeance. Je peux vous dire que ça va être sanglant. Alors, pour ce qui est de rester stoïque devant ce blockbuster très violent, c'est pas quasiment impossible. D'abord parce qu'il y a Russell Crowe en jupette. C'est compliqué. C'est compliqué de rester stoïque devant Russell Crowe en jupette, surtout que c'est sa grande période, où il n'y a pas vraiment une miette de gras. C'est magnifique, c'est charismatique. Et il y a aussi, donc, vous l'avez dit, Joaquin Phoenix, alors qui joue tellement bien les infâmes fêlés, qu'on a une irrépressible envie de nous aussi lever notre glaive vengeur. Donc avec ce gladiateur XXL qui baigne dans le sang, les effets spéciaux et les émotions primaires, en fait c'est impossible de maîtriser ses représentations du monde et de trouver la sérénité de l'âme. Comme quoi, si le stoïcisme est l'absence de troubles, le cinéma, lui, est vraiment son contraire.
Le regard de nos philosophes, qui veut réagir, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, si je me souviens bien du film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment donné où, quand Maximus, donc esclave au fin fond du désert, etc., qui commence à devoir se battre pour sa survie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il doit se battre pour survivre, donc déployer une énergie incroyable, etc. Et en même temps, on a l'impression aussi qu'une fois que sa famille est morte, etc., qu'en un sens, il n'en a plus rien à faire. Et qu'il incarne une sorte de paradoxe qui est une énergie incroyable pour s'en sortir et donc, voilà. Et en même temps, une indifférence parce qu'il a compris, en fait, que son sort ne serait pas complètement non plus entre ses mains. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que, effectivement, il incarne une partie des vertus que Marc Aurèle aurait bien aimé trouver chez son fils. Et en fait, il va passer la suite du film à essayer d'en incarner une possibilité.
C'est bien pour ça que Marc Aurèle sentait bien que Maximus était un meilleur héritier.
La morale du film, c'est que le stoïcisme, c'est pas commode.
Pas mal. Comment les stoïciens peuvent nous aider au quotidien? C'est notre thème du jour avec Roger Paul-Droit, Thibaut de Saint-Maurice et Marie Robert.
Je ferai pas deux fois la même erreur. Demain ton cœur que j'écrase mon mégo. Ça toi que je parle donc je fais pas tant de Niro. J'ai pris des grammes et j'ai perdu des kilos. T'assumes pas ta calvitie comme Nio. Ça fait trop de weed pour une seule buzz. Ça fait trop de bitch pour une seule queue. Ça fait trop de mort pour une seule vie. Ça fait trop d'or pour une seule fille. J'suis dans le bendo. Enfermé sur moi, je te salue pas, j'suis pas courtois. Loin des malfrats et des bourgeois. Entre vie et mort sur la coudoua. J'entends sale nègre, ah ouais, j'me trompe sec bloc, boum boum. Bang bang, tous les jours est un main event. Grand noir et dur comme un bas d'ébène. Trop de chagrin à l'intérieur. J'ai connu la guerre et la frayeur. Rupture de l'hymen, elle me fait de la peine. Je l'ai même pas baisé que je l'ai déjà ken.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Mes copines me taquinent, voilà l'acteur. Ma richesse intérieure dans mon laptop. Maman s'inquiète pour mes frères, elle nous a vu grandir ensemble. Et certains finir l'octop. Que des cobayes sur une piste étroite, j'ai grandi pareil. La première fois qu'ils te lisent tes droits, c'est quand ils t'arrêtent.
Quand ils t'arrêtent, ouais.
Notre succès c'est pour tous les fils de pute de vigile qui nous ont mal regardés. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Ceux qui sont venus soulever les meubles, c'était pas les déménageurs. Séparation des ménages.
avant que l'enfant devienne un jeune. Moussa passé 4 ans en placard, pour lui c'était sa dette majeure. Et tes rappeurs, ils parlent de quoi? C'est des bofs, c'est des maîtres nageurs.
Pour c'est le bonhomme, la babynère.
Tu crois qu'on est là depuis hier? Tu parles à fond, tu BBR.
Toujours au fond comme baby air.
Maman, j'étais sous gasoline. Mais je veux être un gars solide, je veux pas voir mes gars soulis. Non, 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 ça m'inquiète, on s'est pas quitté, on enquête. Compte certifié, mais personne te connaît, t'as pas le droit de tweeter en anglais. Le succès c'est un moyen d'avoir des plavés, mes gavards qui pourraient te vendre une note. Boum, boum, sur les traîtres, une main dans les fesses, les keufs le font parler comme des ventriloques. J'ai plus l'ami dans la Scarface. La sœur de mon frère, c'est ma sœur. Chez nous, y'a pas de sale money comme dans Scarface.
J'ai un break, mec, j'ai trop hype, mec. Me faut une schneck sèche, j'ai texte bien fraîche, que j'baisse express. Un gros cul de presse, j'ai pas que stress, c'est l'autre tristesse. Il faut un wellness que j'décompresse. J'suis dans trop de fesses, faut que j'me confesse. J'suis dans le business, besoin de vitesse. J'suis dans l'ivresse, pardon, God bless me.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie.
Nekfeu et Damso, Tricheur.
Mais faut mériter les choses dans la vie. Il faut retrouver le goût de l'effort.
Grand bien vous fasse.
Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien changer.
Ali Rebéi.
C'est comme ça et pas autrement.
Sur France Inter.
Comment les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque peuvent nous aider dans notre vie quotidienne? Élément de réponse avec trois philosophes, Roger Paul Droit, Marie Robert et Thibaut de Saint-Maurice. Que nous disent les stoïciens pour affronter la mort, un deuil, Roger Paul Droit, et plus généralement la question de la perte?
Comme il se place dans cette idée que finalement nous vivons dans un monde physique où la mort inéluctablement existe, ce serait construire une représentation fausse et donc nous égarer que d'imaginer que nous pourrions y échapper, que nos, les nôtres ou les proches peuvent y échapper. Voilà, il y a cette idée profondément stoïcienne que vivre selon la nature, c'est pas autre chose que vivre selon la raison. L'homme est un être raisonnable, donc il comprend. S'il est sage et s'il vit sous la représentation logique de l'hégémonie, de la raison au poste de commande, il comprend que la mort est inéluctable et que donc que les lamentations qu'il peut faire à ce propos sont parfaitement inutiles, vaines. Tu rendras le mal léger en le considérant comme tel. C'est-à-dire, voilà, c'est ainsi, il y a cette idée-là. Alors, c'est évidemment à double face, à mon avis. C'est-à-dire que ça a un aspect aidant, ça allège. La mort, ça n'est que ça, quelque chose qui arrive inéluctablement à tous les vivants, très bien. Mais d'un autre côté, s'il s'agit de se refuser à soi-même la douleur qu'on éprouve, il y a un peu quelque chose qui devient vite inhumain.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, de mon point de vue, il y a un grand malentendu sur la mort dans le stoïcisme, qui est d'ailleurs le même un peu, il y a un argument chez Épicure qui est aussi un peu problématique. Parce que, en réalité, il me semble que c'est extrêmement banal de mourir. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des millions, je sais pas combien de millions de gens meurent de la même façon qu'il y en a des millions qui naissent. C'est à la fois extrêmement banal et en même temps, la naissance comme la mort reste un événement qui, vécu dans la singularité de sa propre existence, est toujours extraordinaire. Et en fait, il me semble qu'il y a un malentendu. En tout cas, il y a une difficulté dont on pourrait discuter dans le stoïcisme, mais aussi comme dans d'autres sagesses antiques, qui est cette difficulté finalement à penser la singularité. C'est quelque chose qui surgira plus tard dans l'histoire de la philosophie. Mais je suis d'accord, hein, l'homme est un être raisonnable, etc. Mais c'est une façon aussi de gommer, en fait, sa singularité, sa subjectivité, vraiment le point de vue singulier qu'on a sur les choses et le lien qu'on a aux autres hommes, etc. Et donc, oui, on peut dire que ben la mort n'a rien pour nous, que la mort, il fallait s'y préparer parce que c'est dans la nature des choses. N'empêche que, singulièrement, ça fait mal. Quoi.
Mais Sénèque nous dit qu'il faut garder en permanence à l'esprit la possibilité du malheur. L'idée, c'est de se préparer aux événements effroyables, inévitables qui rythment nos vies. Et Marc Aurèle écrit dans ses pensées, agis, parle et pense dans l'idée que tu peux, sur l'heure, sortir de la vie. Marie-Robert.
Bien sûr, mais pour revenir justement, c'est encore moins. Effectivement, c'est pas une pensée de l'individu. C'est peut-être ce qui peut nous paraître insupportable dans des temps contemporains, c'est que l'individu est mis à l'écart. Et c'est ce qui est déchirant, inacceptable, effectivement, quand on le lit. Cependant, ça va avec un point que nous évoquions, c'est peut-être sur le sujet de la mort et de la perte qu'il faut comprendre l'arrière-plan stoïcien, qui est vraiment un fondement cosmologique, en fait. Une idée que le monde est un tout cohérent, rationnel, que Dieu est la nature, que le logos est partout. Et effectivement, là, pour le coup, il y a peut-être une rupture avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que avons-nous ce fondement ? Donc, pouvons-nous complètement, et sur le point in extremis qu'est la mort, comprendre et accepter le stoïcisme ?
Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission, vous habitez à Arras. La pensée stoïcienne vous a aidé à certains moments de votre vie ?
Oui, tout à fait, c'est ça dont je voulais attester en quelques mots. Je trouve que c'est une philosophie tout d'abord extrêmement accessible. Les ouvrages ont le mérite d'être clairs, petits, très saucissonnables. Et je voulais dire combien ça peut se aider à vivre encore. Cette philosophie peut aider à vivre en 2017, en 2018, etc. J'ai eu, voilà mon expérience, j'ai eu un cancer l'année dernière. Mon Touvip l'a annoncé alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et dans les 10 secondes, je dirais, c'est à cause de cette philosophie, ça m'a permis de l'accepter, de l'assumer directement parce que je l'ai vécu comme une chose sur laquelle je ne pouvais rien. C'était inéluctable. On ne peut rien faire, on l'accepte. Et après, on se concentre sur ce que l'on est seul capable de faire. Et ça, je pense que ça aide énormément à vivre. On pourrait se morfondre, se tracasser parce qu'on a une maladie qui peut vous entraîner à la mort. Non, on va se concentrer avec résolution et optimisme sur ce qu'on doit faire dans ces cas-là et nos rapports avec les autres, etc. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je dirais aussi une toute petite chose, c'est que Sénèque, Marc Aurèle et Epictète sont des auteurs formidables. J'aime beaucoup aussi, malgré qu'il ne soit pas tout à fait stoïcien, Plutarque. Voilà, la sérénité intérieure de Plutarque est quelque chose de magnifique également. Voilà.
Merci beaucoup Louis pour votre éclairage. Roger Paul-Droit, sur le témoignage de Louis.
Je pense qu'il montre de façon tout à fait claire et nette l'actualité et l'efficacité présente de ses pensées. Avec peut-être un bémol, c'est que il me semble qu'il y a dans tout cela, on parlait d'oubli de l'individu, c'est vrai que la mort ça n'arrive à chacun qu'une fois, même si ça arrive banalement, mais il y a aussi et surtout je crois une forme chez les stoïciens et peut-être chez beaucoup même de nos contemporains, de surestimation de l'efficacité du rationnel. Tout ça c'est quand même des pensées antérieures à la psychanalyse, pour autant que je sache. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'idée, après tout, je comprends très bien que cet auditeur dise « ça m'a aidé et à un moment crucial », est-ce que ça aurait aidé quelqu'un d'autre qui aurait une autre histoire identiquement, je ne suis pas sûr.
Et puis attention, il y a peut-être un contresens du stoïcisme, c'est par exemple de faire du stoïcien un adepte du masochisme, croire par exemple que la souffrance peut rendre heureux Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est-à-dire qu'on est bien toujours dans cet espace intérieur qui doit être le plus tranquille possible. Hein. Le bonheur pour la philosophie antique, gréco-romaine, ce n'est pas du mouvement, c'est du repos. C'est toujours un état en fait d'absence de troubles et donc il n'y a pas de masochisme. Il y a le souci de comprendre et en comprenant de ne pas subir.
Alors certains reprochent souvent au stoïcisme d'être une philosophie de la soumission, de la passivité, de la résignation, de l'acceptation des injustices. Vous êtes d'accord avec ça autour de la table Thibaut de Saint-Maurice.
Alors c'est un reproche qui a été souvent fait à cette philosophie, et c'est vrai que par exemple, alors d'un point de vue pédagogique, hein, pour forcer un peu les oppositions, mais pour donner un exemple, ça peut être intéressant de confronter la pensée stoïcienne et par exemple une pensée beaucoup plus contemporaine, qui est celle de Camus par exemple, et de la révolte, puisque d'un côté il y a le même constat sur une sorte de monde dont le sens nous échappe, ou sur lequel on ne peut pas grand chose, qui est absurde pour Camus, et où dans les causes nous échappent pour les stoïciens. Sauf que les réponses sont très différentes. Camus, par exemple, dit, même si c'est absurde, il faut se révolter, parce que c'est dans la révolte qu'on va pouvoir témoigner de notre dignité, de notre liberté, de notre lien aux autres. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce même constat sur le fait que le monde est un ensemble de causes qui nous échappent, en ce cas, il y a des choses dans le monde sur lesquelles on ne peut rien, peut donner lieu, malgré tout, à des options philosophiques différentes.
Oui, sauf que le monde des stoïciens et le monde de Camus sont profondément différents. Le monde des stoïciens, il est entièrement articulé, il fonctionne, il faut jouer sa partition dans cette grande symphonie, alors que le monde de Camus, c'est l'absurdité contre laquelle, justement, le cri et l'action de la révolte peuvent instaurer un sens, quoi.
C'est... Le mot de conclusion vous revient, Marie-Robert.
Ah, formidable. Non, justement, ce que je trouve très, très intéressant, même si ça rejoint, c'est l'idée du stoïcisme, pour moi, une vraie philosophie de la consolation. Et c'est ça que je trouve très beau et très utile. C'est une philosophie qui naît en temps de crise. Ça naît dans un monde déséquilibré. La mort d'Alexandre laisse la cité grecque à l'état fantomatique. Il faut une réponse, les stoïciens en apportent une, et ça nous console. Oui, la douleur fait mal, mais comment faire quand on n'a rien d'autre quand on n'a rien, il faut la supporter. Donc voilà, je pense que ça, c'est l'idée en tout cas, que c'est une philosophie très actuelle.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Roger Paul Droit. Merci. Votre dernier ouvrage qu'on peut lire, parce que vous en publiez.
Esprit d'enfance, je l'ai dit, Jacob.
Marie-Robert, le dernier ouvrage.
Et Kant, tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo.
Et vous, Thibaut de Saint-Maurice, on peut toujours lire votre philosophie en série.
Oui, alors qui date un peu.
Mais bon, on peut toujours le lire en deux tomes.
Voilà.
Merci à tous d'être venus. Vous pourrez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? We'll be right back.
sunshine won't you stay?
C'était Grand Bien Vous Fasse. L'émission aujourd'hui était consacrée à la philosophie stoïcienne. Tout l'été, Ali Rebéi vous propose un florilège de ses meilleures émissions. La prochaine rediffusion, c'est lundi prochain. Vous serez initié à l'étonnant pouvoir de dire non.